Mathieu, bon côté, d'abord, merci d'être là.
Merci pour l'invitation.
Tu es docteur en sociologie, mm-hmm. tu as un bac en philosophie, mm-hmm. tu es auteur, chroniqueur, commentateur du temps présent, et certains te le reprocheront à certains égards, grand orateur et grand défenseur d'une certaine langue française. Et des fois, j'ai l'impression qu'avant même qu'on ait écouté ce que tu as à dire, on juge de la façon dont tu l'as dit, OK? Dont mm-hmm. tu dis les choses. Et j'ai l'impression que ça parle de nous collectivement dans notre rapport au bien parler, comme si ça établissait une espèce de hiérarchie entre les gens qu'on appelle le monde ordinaire et ce que mon père appelait, paix à son âme, les péteux. C'est quoi ce rapport qu'on a, tu crois, collectivement, avec les gens qui maîtrisent une certaine langue, une langue plus soutenue, mettons?
J'ai l'impression, je me rappelle la première fois que j'ai fait Tout le monde en parle, en 2012, autour de mon livre Fin de cycle, il y avait des commentaires sur Twitter, je crois qu'il était apparu, c'est maudit français retourne en France. bon, alors dis-moi, ça fait 400 ans qu'on est ici, c'est compliqué quand même. Mais cela dit, il y a, parce que ça a existé au Québec aussi, une forme de côté prétentieux, c'est-à-dire je vais parler à la française. Et ça, ouais. vouloir parler à la française, c'est quelquefois vouloir se détacher des Québécois comme si c'était une tribu d'ignorants, puis on les regarde de haut en disant ben, peuple, ville, manant, arrière, manant, tassez-vous les boueux. Bon. Ouais. Mais il y a aussi, me semble-t-il, une manière tout à fait québécoise d'avoir le souci du mot juste, le souci de la formule exacte, le souci de la phrase correctement formulée, la phrase qui est capable aussi d'évoquer, de réveiller l'imagination aussi. Donc je pense qu'on peut être tout à fait québécois et soucieux de l'excellence française. Et de ce point de vue, je crois que les Québécois sont sévères envers ceux qui prennent un détour parisien. Ils passent 3 semaines à Paris, ils viennent avec l'accent puis ils perdent jamais. Ça, les Québécois sont sévères envers ça. Inversement, je ne pense pas qu'ils sont si sévères que ça envers ceux des leurs qui ont le souci du mot juste.
Tu ne l'as pas vécu, toi? Est-ce que tu as senti, à une certaine époque de ta vie, jeune, peut-être à l'école, même une certaine ostracisation? Parce que moi, j'ai l'impression que des fois, dans les cours d'école, les garçons ou les filles qui ont un bon parler sont souvent catégorisés comme étant des nerds, des rejets, ou des gens qui veulent s'élever au-dessus de la mêlée, mettons.
Pas spécialement. En fait, j'ai toujours été hanté, cela dit, par la puissance du discours. Ça, oui. d'aussi loin que je me souvienne, lorsque je regardais un film, je guettais la scène où le discours changeait le cours de l'histoire. 2 exemples, Robin des Bois, Prince des voleurs, avec Kevin Costner, certes, mais surtout avec Morgan Freeman, qui joue le rôle de l'allié musulman de Kevin Costner, Robin des Bois. Oui. Et là, tout s'effondre. Ils sont en train de perdre la bataille, ils vont perdre la guerre. Quand soudainement, Azim monte sur le château et fait un discours, « Revenez, je ne suis pas l'un d'entre vous, mais je me bats malgré tout. Je me bats contre le tyran qui vous opprime. » Et là, le discours est tellement inspirant. Ouais, c'est ça le problème. Le discours est tellement inspirant qu'il redonne courage aux hommes et aux femmes qui reviennent se battre, finalement, ils renversent les méchants. Autre film du même genre, La Révolution française, les années Lumière, les années terribles, le discours de Camille Desmoulins qui appelle à l'insurrection. Et qu'est-ce qu'il donne? Il donne envie au peuple de se battre. Michael Collins, un très beau film sur l'indépendance irlandaise, oui. il sort tout juste de prison. Qu'est-ce qu'il fait? Un discours magnifique sur l'indépendance de l'Irlande pendant la Première Guerre. Et il donne à quoi? Envie aux hommes et aux femmes de se battre dans la réalité des choses.
Donc, tu crois à la puissance de la parole.
Mais bien sûr, je pense que la parole, pour peu qu'elle ne soit pas... parce qu'il y a une parole pédagogique qui est nécessaire, on appelle ça enseigner. Oui. Mais quand on fait un discours public à la manière d'un grand homme politique, oui. une grande figure politique, là, la parole doit évidemment être intelligente, elle doit être pédagogique, mais elle doit aussi réveiller, parler à l'âme, réveiller l'âme, toucher l'imagination, nous faire voir qu'au-delà de toutes nos différences, nous sommes un. Nous sommes un peuple qui veut agir collectivement. Et je pense que ces discours-là, ils sont magnifiques la plupart du temps, ils ont une capacité de traduire un moment de l'histoire et de donner l'impulsion qu'il faut pour renverser ce qui semblait impossible il y a quelques minutes.
Tu dois être très malheureux avec le discours politique ambiant actuel.
Voilà pourquoi je passe beaucoup de temps sur YouTube à écouter des vieux vidéos.
Des vieux discours. Nous vivons dans une époque très bruyante. J'ai l'impression que tout le monde se promène avec un porte-voix géant et qu'on ne se parle plus vraiment. Aussi, on se parle entre gens qui partageons la même opinion. Et ma question est la suivante. J'ai l'impression qu'on apprend de plus en plus à se battre contre les autres tribus qui ne pensent pas comme nous, plutôt qu'à débattre et à trouver un terrain où on pourrait inventer une tribu commune.
Oui, bien sûr.
Alors, Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive plus à débattre en ce moment?
Il y a un phénomène technologique, c'est bête à dire, mais c'est la pensée en silo qui vient avec les médias sociaux. Tout le monde explique tout par les médias sociaux, mais il y a du vrai là-dedans, oui. C'est-à-dire un enfermement. Ensuite, je crois, il y a la tentation, une forme d'esprit tribal contemporain, c'est très vrai, c'est chacun veut être dans son clan. Un clan réconfortant intellectuellement, idéologiquement, politiquement. Et la pensée de l'autre ne nous interpelle pas, la pensée de l'autre nous scandalise. Or, la condition première du débat public, à mon avis, c'est de se dire que l'autre a de bonnes raisons de penser ce qu'il pense. Ça ne veut pas dire que je vais être d'accord avec lui, mais je dois supposer qu'il y a un noyau rationnel dans ce qu'il dit, un fond raisonnable, et à tout le moins, lui est persuadé d'être de bonne foi. Quand on est persuadé que l'autre devant nous veut le mal, quand on est persuadé que fondamentalement il est hanté par des mauvais sentiments et veut détruire l'un ou l'autre, eh bien, on est incapable de comprendre les conditions même de la formation d'une autre pensée que la nôtre. Et de ce point de vue, je pense que si on avait un travail pédagogique à faire collectivement, c'est accepter justement cette idée qu'il y a une pluralité de points de vue, et plus encore, que chacun a quelque chose à amener dans l'espace public. Dans mon dernier livre, le dernier chapitre, je dis « Une société a besoin de conservateurs et de progressistes. Elle a besoin d'enracinement et de cosmopolitisme. Elle a besoin d'autorité et de liberté. Elle a besoin de transmission. Elle a besoin aussi de quelquefois de faire table rase. Mm-hmm. Une société ne peut pas être figée dans un bloc de valeurs. Elle doit être toujours en tension entre des valeurs qui se répondent, qui se combattent, mais qui néanmoins construisent un commun. Et c'est l'obsession de ma vie, ça, c'est-à-dire ce commun, plus largement sur le plan de la philosophie politique, dans notre vie, dans notre Québec à nous. J'ai bien hâte que les Québécois retrouvent des raisons communes, comme disait Fernand Dumont.
Est-ce que ça ne participe pas aussi de quelque chose qui est identitaire, c'est-à-dire qu'on dit souvent de nous que nous sommes des êtres, les Québécois, par identité là, consensuelle, qu'on n'aime pas l'idée de débattre. Est-ce que c'est quelque chose qui est suranné? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel on vit, mais qui est plus d'actualité, ou ça mais fait encore...
Je pense que, justement, les médias sociaux nous offrent la possibilité de ne pas débattre en montrant tout de suite les dents, tu comprends? Mm-hmm. On publie si quelqu'un publie quelque chose de trois paragraphes sur Facebook, il commence à recevoir des likes ou des insultes avant même que quelqu'un ait pu avoir physiquement le temps de lire les trois paragraphes. Ça va vite, tu sais. Ouais. Et moi, je trouve que c'est une façon de ne pas vouloir débattre, oui. Que de pas justement, au lieu de faire le mouton, hein, on monte les dents tout de suite, mais on sait pas de quoi on parle. Mm-hmm. On prend pas le temps de s'écouter les uns les autres.
Tu vis une partie de ta vie en France, tu y travailles aussi. Est-ce que tu constates qu'il y a une différence réelle dans notre rapport à la langue, à la parole, à l'intellectualisme aussi?
Ouais. C'est deux pays très différents, c'est-à-dire deux pays frères, mais deux pays très différents, le Québec et la France. Là-bas, la vie intellectuelle, elle est au cœur de l'espace public. Alors ici, elle est à l'université, elle est dans les cégeps, dans quelques revues, mais la vie intellectuelle a un côté exotique. Alors qu'en France, elle est au cœur de l'espace public depuis des siècles, et ça fait partie du paysage. Donc il y a ça. Ensuite, il y a cette valorisation au cœur de l'espace public, je crois, des œuvres. Et ça me semble important. C'est-à-dire cette idée que la littérature doit pas être simplement dans la périphérie, mais doit être au cœur de la société, que la philosophie doit être au cœur de la société. Ensuite, je ne veux pas idéaliser la France, il y a une part d'esbrouf là-dedans, mais c'est vraiment un pays qui croit qu'on peut tirer par le haut par ce qu'on appelait la culture générale ou les humanités, la littérature, la philosophie, l'histoire. Et ça, je pense qu'elle pourrait nous inspirer un peu.
Et ça se vérifie encore pour
toi? Oui. Moi, j'en fais l'expérience. Ouais. Cela dit, je refuse d'être trop sévère envers les Québécois. Parce que il faut être sérieux, il faut voir d'où on sort. Il y a 50 ans à peine, on était une société, ce qu'on disait, un peuple colonisé, un peuple dominé chez lui, étranger en son propre pays, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur en son propre pays, Félix Leclerc. On était condamné à être étranger chez nous. En 50 ans, on a quand même fait du chemin. Moi, je suis fasciné quand même par les progrès québécois depuis 50 ans. On peut être sévère envers nous-mêmes, mais il faut avoir une grande tendresse envers les Québécois, me semble-t-il, qui ont fait de grands efforts. Le grand effort reste à faire, on appelle ça l'indépendance. Mais cela dit, je pense qu'on doit avoir un peu de tendresse pour nous-mêmes, ne pas se verser dans l'hypercritique.
Mathieu Bocoté, ça a été un plaisir de t'écouter et de parler avec toi. J'invite les gens à la maison qui ont eu la chance d'enregistrer l'émission, de réécouter cet entretien au ralenti pour vraiment saisir l'entièreté du discours, parce que tu es une mitraillette et je suis littéralement criblé de tous ces mots. Merci beaucoup, de cette passion avec laquelle tu défends ta parole. Merci, Mathieu Bocoté.